Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour et bienvenue à cette édition du programme en français de ce samedi 10 octobre. Présentation Bertrand Tungandamé. Au sommaire de cette édition, eh bien, nous allons avoir notre rubrique hebdomadaire, notre rubrique rétro. Et aujourd'hui, on va parler de la mise sur le marché un 10 octobre. C'était un 10 octobre 1903, donc mise sur le marché de l'aspirine. Nous parlerons également d'une exposition qui aura lieu à partir de la semaine prochaine d'objets d'art aborigène à Rennes. On parlera également de la saga autour du drapeau aborigène, car l'auteur de ce drapeau exerce désormais ses droits d'auteur et veut facturer donc pour l'usage de ses drapeaux, et ceci suscite une controverse dans la communauté aborigène, et nous y reviendrons dans le programme.
Mais avant de développer cela, l'actualité de ce samedi 10 octobre. Dans cette édition, les espoirs d'allègement des restrictions sanitaires à Melbourne s'amenuisent. Libérée de captivité au Mali, Sophie Pétronin, la dernière otage française, a atterri hier sur le sol français. Et le prix Nobel de la paix décerné au Programme alimentaire mondial. Les habitants du Victoria ne sont pas prêts de voir une levée rapide des mesures de restrictions sanitaires. Ce constat est tombé ce samedi. Aujourd'hui, en effet, 14 nouveaux cas de Covid ont été signalés, mais pour une troisième journée d'affilée, aucun décès n'a été enregistré. Le premier du Victoria, Daniel Andrews, a déclaré que la moyenne pour deux semaines se situe actuellement à 9,5 cas, ce qu'il considère comme très élevé, car c'est presque le double de l'objectif fixé par le gouvernement de 5 cas par semaine pour pouvoir commencer à alléger les mesures de restrictions sanitaires. Daniel Andrews a signalé que les autorités se pencheront sur les prochaines étapes dans les prochains jours.
The tail of this second wave was always going to be stubborn, and that's exactly the way it's panning out. I think it's unlikely that we'll be able to move as fast as we would like to have done next Sunday. So I think it's unlikely that we'll be able to take as big a steps as we might have hoped to take next Sunday. But I do want to confirm for all Melburnians, and indeed all Victorians, we will take steps next Sunday.
Pendant ce temps-là, la Nouvelle-Galles du Sud a enregistré 3 nouveaux cas de COVID. 2 d'entre eux sont liés à un cas de quarantaine dans un hôtel. Selon le docteur Michael Douglas des autorités sanitaires de New South Wales, l'un des cas est une infirmière de l'hôpital qui travaille à l'hôpital Saint-Vincent de Sydney qui s'était rendue au travail alors qu'elle était infectée de COVID-19.
The nurse provided specialized care to a single patient and had limited contact with a very small number of colleagues. Contact tracing is continuing and the source of infection is under investigation, although it is believed infection occurred outside of the hospital. A second local inquiry case is linked to that case.
Le Queensland a enregistré un cas de COVID. Les autorités du Queensland craignent l'explosion d'un nouveau cluster après avoir détecté des traces de COVID dans des égouts près de Townsville. La docteure Janet Young, la médecin en chef du Queensland, a enjoint la population à se faire tester.
I'm not aware of any cases in Townsville that might have come from. So it is really important that anyone in Townsville today with any symptoms, please come forward and get tested immediately and isolate yourself until you get that result.
En France, Sophie Pétronin a été libérée après 4 années de détention au Mali. C'était la dernière ressortissante française encore détenue en otage. Emmanuel Macron, qui l'attendait à sa descente d'avion hier à la base aérienne de Villacoublay près de Paris, a salué sa libération. Reportage sur place, Sophie de la Moissonnière pour RFI. Grèce.
Son foulard blanc sur la tête, un manteau beige et un masque, bien sûr. Sophie Pétronin descend du Falcon médicalisé. Elle échange quelques mots avec Emmanuel Macron. Puis l'ancien otage serre dans ses bras l'un de ses petits-fils, un petit garçon d'une dizaine d'années. S'approchent également deux autres de ses petits-enfants, ainsi que Sébastien Chadeau, son fils, qui a fait le voyage depuis le Mali avec elle. Tous les cinq s'enlacent, une embrassade collective comme une espèce de ronde qui dure de très longues minutes. Un moment extrêmement émouvant. Emmanuel Macron et Jean-Yves Le Drian se tiennent à l'écart. Puis tout le monde se rend dans un salon d'accueil où une quinzaine de proches de Sophie Pétronin l'attendent. Les retrouvailles durent une bonne heure. Emmanuel Macron devait ressortir, prendre la parole. Puis finalement le président a changé d'avis. Il s'est contenté d'un tweet pour souhaiter la bienvenue à Sophie Pétronin. Apparemment, l'ex-otage ne souhaitait pas s'exprimer. Elle voulait rester avec sa famille. Emmanuel Macron a tenu à respecter son choix.
Et hier soir, les autorités suisses ont annoncé qu'une autre otage en Mali, une Suissesse, a été tuée par ses ravisseurs. Il s'agit d'une missionnaire d'une quarantaine d'années. Originaire des Bals, elle a été enlevée il y a 4 ans à Tombouctou par un groupe lié à Al-Qaïda. Elle avait déjà été enlevée brièvement en 2012 lorsque la ville était tombée aux mains des djihadistes. Elle était apparue dans une vidéo de ses ravisseurs en 2017, visiblement affaiblie et amaigrie. Et poursuite hier des procès liés aux attentats de 2015 à Paris. Bien, Saïd Maclouf était le quatrième accusé à comparaître. Le parquet accuse ce trentenaire d'être intervenu dans la recherche et fourniture d'armes pour Amedi Coulibaly en lien avec deux coprévenus, dont son cousin Amar Ramdani. Son ADN a été retrouvé sur un taser utilisé par le tueur de Montrouge et l'hypercachère. Reportage Laura Martel pour RFI.
Saïd Maclouf indique d'emblée, je vais être clair et net, il n'y a jamais eu d'armes, c'est que des stupes. Je comprends pas cette accusation de terrorisme. Coulibaly, je l'ai vu une fois et demie à peine. Le juge assesseur lui accorde qu'il est établi que s'il a bien croisé le tueur, il ne le connaissait pas. Le magistrat note aussi qu'aucun élément n'indique qu'il serait radicalisé. Mais l'assesseur compte bien éclaircir le but de 5 déplacements de Maclouf et Amar Ramdani dans le Nord, lieu de provenance des armes. Surtout que pendant l'instruction, l'accusé a alterné silence et déclarations changeantes, évoquant d'abord des visites à des prostituées, des repérages pour des escroqueries et finalement l'achat de cannabis. Vu les peines encourues pour terrorisme, pourquoi ne pas avoir parlé tout de suite d'escroqueries et de stupéfiants, demande l'assesseur. Quand on m'arrête pour terrorisme, je sais que je suis innocent, je pense que je vais sortir, alors pourquoi j'admettrai des choses dans lesquelles je suis réellement impliqué, se défend Saïd Maclouf. Il avance aussi sa réticence à mouiller d'autres personnes, puis à mesure que le temps passe, sa révolte contre une enquête à charge et sa détresse face à la découverte de son ADN sur la lanière du fameux taser. Ce taser, je ne l'ai pas touché, je ne l'ai même jamais vu, ça me ronge le cerveau encore aujourd'hui, clame-t-il. Son avocate pointe alors que l'hypothèse d'un transfert secondaire n'a pas été écartée et qu'en l'absence de preuves irréfutables, le transport d'armes reste également théorique. Des hypothèses, c'est que ça depuis le début, dénonce Maclouf, mais il faut savoir, c'est de la vérité dont il s'agit.
Et en France, le rebond de l'épidémie du Covid-19 s'accélère et le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé que de nouvelles villes vont passer en état d'alerte maximale dès ce samedi. Lille, Lyon, Grenoble, et Saint-Étienne passe à partir de ce samedi en zone d'alerte maximale en raison de la dégradation des indicateurs liés à l'épidémie de Covid-19. Lille, Lyon, Grenoble et Saint-Étienne, où l'incidence a dépassé le seuil d'alerte de 250 nouveaux cas pour 100 000 habitants et plus de 30% des lits de réanimation sont occupés par des malades du Covid, bien un passage en zone d'alerte maximale a été décidé. Une mesure effective dès ce samedi matin également. Le prix Nobel de la paix 2020 attribué au PAM, le Programme alimentaire mondial. Le PAM, créé en 1963 pour lutter contre la faim dans le monde, a ainsi été récompensé pour sa contribution à l'amélioration des conditions de paix dans les zones touchées par les conflits. Reportage sur ce prix Nobel 2020 avec Olivier Roger pour RFI.
S'il fallait citer un chiffre pour résumer le PAM, ce serait celui de ces 15 milliards de rations livrées l'an dernier. Le PAM est une gigantesque machine d'aide alimentaire d'urgence. 2/3 de ses interventions se font dans des zones en crise ou en conflit. Actuellement, la plus grande opération en cours se déroule au Yémen, où 10 millions de personnes ont faim. Mais on voit le logo iconique du PAM, cette main tenant un épi de maïs, en RDC, au Burkina Faso, au Mali, au Sud-Soudan, au nord du Nigeria. L'histoire du PAM qui débute en 1962 est celle des conflits et des des catastrophes qui ont émaillé la planète ces 60 dernières années. L'organisation dispose de moyens considérables pour remplir ses missions, des missions qui se sont densifiées. Le PAM ne se contente plus de distribuer de la nourriture, mais travaille à l'éducation alimentaire et à la prise en compte des ressources. Malgré ses 8 milliards de dollars de budget annuel, l'organisation qui dépend de la bonne volonté des donateurs a du mal à couvrir tous les besoins et ne cache pas ses difficultés. On imagine que ce prix Nobel devrait lui rendre la tâche plus simple à l'avenir.
Le Kyrgyzstan s'enfonce dans une crise politique après des élections législatives jugées frauduleuses dimanche dernier. Le pays de 6 millions d'habitants vit depuis dimanche dernier au rythme des manifestations massives dans la capitale Bishkek qui ont fait déjà un mort et des centaines de blessés. Hier, le président Sooronbay Jeenbekov, qui n'est plus apparu en public depuis lundi, s'est déclaré prêt à démissionner. Et à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, ce samedi 10 octobre, l'ONG Human Rights Watch a publié un rapport indiquant qu'à l'échelle du monde, 792 millions de personnes ont un problème de santé mentale, soit une personne sur 10 et un enfant sur 5. L'Organisation des défenses des droits de l'homme souligne que malgré ces chiffres, les gouvernements consacrent moins de 2% de leur budget à la santé mentale. Et dans de nombreux pays, souvent des malades mentales se retrouvent enfermés, attachés, voire enchaînés par leurs proches, démunis face à la maladie faute de moyens. Et à présent, un coup d'œil météo à travers l'Australie. Perth, 24 degrés. Adélaïde, 15. Melbourne, 17. Hobart, 16. Canberra, 18. Wollongong, 20. Sydney, 21. Newcastle, 24. Brisbane, 27. Cairns, 29. Et Darwin, 32 degrés. Et à présent, un rappel des titres. Les espoirs d'allègement des restrictions sanitaires à Melbourne s'amenuisent. Libérée de captivité au Mali, Sophie Pétronin, la dernière otage française, a atterri hier sur le sol français. Et le prix Nobel de la paix décerné au Programme alimentaire mondial. C'est tout pour l'actualité de ce samedi 10 octobre. Après la pause, le magazine des sports.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Dans ce magazine des sports de ce samedi 10 octobre, on commence par le tennis avec le tournoi de Roland-Garros 2020, un tournoi qui a failli ne pas avoir lieu mais qui touche à sa fin ce week-end avec deux finales historiques. Côté dames, ce samedi, la polonaise Iga Świątek rencontre l'américaine Sofia Kenin. La joueuse polonaise, qu'il faut le rappeler, fait toujours ses études, a signalé avant le match de ce soir que ses succès sur les courts détermineront la suite de sa carrière. Ou tennis.
I think if I'm gonna be in a few finals of Grand Slams, it would be like impossible to study and doing that kind of and playing that kind of tennis consistently. So I'm just gonna see how the situation develops.
Sa rivale ce samedi soir, donc qui se disputera le titre, l'américaine Sofia Kenin, approche la finale avec sérénité en soulignant qu'elle va s'inspirer de ses récentes performances sur le circuit australien où elle avait brillé.
I'm hoping that with my experience from Melbourne, it will help me for Saturday's final.
Côté homme, demain soir, Rafael Nadal jouera contre Novak Djokovic, tombeurs respectivement des Diego Schwartzmann et Stefanos Tsitsipas. Pour Guy Forget, directeur du tournoi, l'exploit de Roland-Garros 2020 aura été tout simplement de permettre à la compétition de se dérouler. Guy Forget se réjouit également du calibre des finalistes de ce week-end. Spectacle garanti selon lui.
Je dirais que ce tournoi de Roland-Garros était un bol d'oxygène formidable. Le président l'a expliqué. On est fiers aujourd'hui d'être à la tête de ce navire et d'avoir donné des émotions à toutes les Françaises, tous les Français.
Et
c'est pas terminé avec des matchs extraordinaires. Donc, Corinne, tu l'as dit justement, on va assister là aussi bien chez les femmes que chez les hommes à des matchs, je pense, de niveau formidable. Et on s'en réjouit. J'ai retrouvé là encore chez les hommes, Rafa et Novak, c'est prodigieux. Et je veux dire, c'est des oppositions de style formidables. Voilà, chez les filles, pareil, des tennis inspirés. Voilà, moi, en tant que directeur tournoi, voilà, je suis comblé et j'espère qu'ils continueront de nous faire vivre des émotions extra jusqu'à dimanche soir.
Et un mot de cyclisme, doublé de Arnaud Démare qui a gagné la 6e et la 7e étape du Giro d'Italia respectivement avant-hier et hier. Il faut souligner que Arnaud Démare a remporté la 6e étape à l'issue d'une montée éprouvante.
Ouais, non, c'est extra. C'est super. Ça montait vraiment très très fort. Et voilà, j'ai perdu quelques places, je ne me suis pas affolé. Et quand on est revenu, ça redescendait un petit peu. Et là, il y a Astana qui remonte. Je prends la roue, je suis vraiment bien emmené. Je freine pas. Et là, je lance le sprint et voilà, j'ai tout mis, la force qui me restait. Mais voilà, vraiment, une arrivée difficile ce matin, j'étais vraiment pas sûr que ça arrive au sprint. On a laissé Bora bosser parce que on avait peur qu'il nous refasse le même coup qu'avant-hier. Et là, génial.
Et hier, Belote, Arnaud Démare avait encore le vent en poupe. Sa victoire d'hier, la 7e étape, il l'attribue cette fois-ci à un travail d'équipe.
Ils sont énormes, j'ai une équipe de ouf, donc c'est extraordinaire le boulot qu'ils font.
Cyclisme toujours, on annonce que l'édition 2020 de l'épreuve Paris-Roubaix, initialement prévue pour le 25 octobre, a été purement et simplement annulée pour cause de coronavirus. Au football, on revient sur les aspects historiques de la victoire mercredi soir de l'équipe de France de football contre l'Ukraine en match amical, un match remporté par les Bleus 7 buts contre 1. Un match historique à plusieurs égards. En effet, la dernière fois que les Bleus avaient marqué 7 buts en équipe nationale, c'était en 2014, en match amical aussi contre la Jamaïque. C'était un match historique aussi pour Eduardo Cavinga, la dernière et plus jeune recrue des Bleus, qui inscrivait son nom au tableau des buteurs de l'équipe de France, auteur du premier but marqué à la 9e minute, devenant par la même occasion le plus jeune buteur de l'équipe de France d'après-guerre et le deuxième plus jeune buteur des Bleus de toute l'histoire.
Cavinga ! Cavinga, l'inspiration ! À la 9e minute, première titularisation, premier but d'un gamin de 17 ans qui peut-être s'installera longtemps en bleu en attendant ses débuts. Son fracassant Eduardo Camavinga, les Bleus mènent 1-0.
Camavinga a aussi inscrit son nom dans les annales du football français comme troisième plus jeune joueur de l'équipe de France. Un succès que le sélectionneur national n'a pas manqué de saluer. Pour Didier Deschamps, Camavinga est là pour la durée et il a déjà fait ses preuves de par ses performances sur le terrain.
Il est capable de faire des choses que les autres font peut-être moins bien.
Bravo à lui, c'est un jeune joueur qui a énormément de qualité, de facilité. Il a eu le bonheur pour sa première sélection en tant que titulaire de marquer ce but-là. Il n'a pas encore 18 ans. Je l'ai pris le mois dernier et je le reprends aujourd'hui si je le fais jouer parce que j'estime qu'il est capable. Après, à lui de démontrer sur le terrain, pas en demander trop aussi, mais il est là. Alors, je vous avoue, il le sait, hein, et vous le savez aussi, milieu de terrain, il y a énormément de concurrence, mais c'est pas les autres et lui. C'est lui avec les autres.
Autre point historique de cette rencontre France-Ukraine, bien Olivier Giroud marquait sa 100e sélection en équipe nationale. Et en plus de porter le brassard de capitaine ce mercredi soir, le meneur de jeu a lui aussi inscrit son nom dans les annales du foot français. Auteur des deux buts dans la rencontre de mercredi soir, Olivier Giroud a inscrit à la même occasion un total de 42 buts pour les Bleus, dépassant le record de Michel Platini jusque-là numéro 2, derrière le record absolu détenu par Thierry Henry, auteur quant à lui de 51 buts en équipe nationale. En sport australien, en rugby australien, en demi-finale hier, les Raiders ont battu les Roosters 22 à 18. Et l'autre demi-finale, c'est cet après-midi, elle se jouera entre les Eels et les Rabbitohs. Et au footy, en demi-finale hier, Richmond a battu St Kilda 90 à 49. Autre demi-finale en AFL, ce sera ce soir entre Geelong et Collingwood. C'est tout pour l'actualité sportive de ce samedi 10 octobre, suite du programme après la pause. C'était Ngomi avec Tikenja Fakoli. Je vous signale que vous êtes toujours à l'écoute du programme en français sur la radio SPS. Dans le programme aujourd'hui, je vous rappelle que nous avons un entretien avec une responsable du gouvernement d'Australie méridionale pour nous parler d'une exposition d'art aborigène qui se tiendra à Rennes, conjointement à Rennes et à Adélaïde, à partir de cette semaine. Nous parlerons également de la controverse entourant le drapeau aborigène, une controverse dont le Parlement, sur laquelle le Sénat australien s'est penché cette semaine. Mais tout de suite, on va passer à une pause, et après la pause, ce sera le tour de notre rubrique rétro où nous allons parler de la mise sur le marché de l'aspirine. C'était un 10 octobre.
SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.
Nous sommes le 10 octobre. Dans notre rubrique rétro, retour sur le 10 octobre 1903. Pour la première fois, l'aspirine était mise en vente, commercialisée en Allemagne par les laboratoires Bayer. Bien aujourd'hui, l'histoire de l'aspirine, de l'écorce de saule au tube de comprimé. C'est notre rétro du jour avec les archives de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel.
La firme allemande Bayer dépose le nom de marque Aspirine. Elle sera leader sur le marché mondial jusqu'à la Première Guerre mondiale, obligée ensuite au titre des dommages de guerre d'abandonner au domaine public le nom qui l'a rendu célèbre. Depuis, des milliards de comprimés ont été fabriqués. En 1994, 11 600 tonnes d'aspirine sont consommées dans le monde, plus de 900 tonnes absorbées rien qu'en France. Mais l'aspirine n'a pas fini de nous étonner.
Il y a une écorce, l'écorce de saule, et plus de 4000 ans d'histoire. Les toutes premières traces de son utilisation viennent d'un papyrus égyptien, puis de la Grèce antique et d'Hippocrate. On la prenait alors en décoction pour lutter contre les douleurs de l'enfantement. Un autre médecin grec, Dioscoride, a décrit ses propres préparations.
Ce Dioscoride utilisait lui aussi l'écorce de saule, mais dans les douleurs auriculaires. Alors pour cela, à l'écorce de saule ou au suc de l'écorce de saule, il doit être mélangé avec de l'écorce de grenade en poudre et le tout est mélangé au sein du miel rosa.
Au Moyen-Âge, l'écorce de saule continuera de traiter douleurs et inflammations. Beaucoup l'utilisent très simplement.
Le saule était très répandu, il y en avait dans les jardins et on raconte que les gens utilisaient en particulier les petits trous qu'il pouvait y avoir dans l'écorce pour mettre leurs doigts et récupérer le suc qu'ils consommaient ensuite.
L'écorce salvatrice retombe dans l'oubli quelques siècles, avant de réapparaître pour soigner les fièvres en 1753 grâce à un révérend anglais, Edward Stone.
Il pense que si le saule pousse les pieds dans l'eau, il doit pouvoir servir au traitement des maladies qui sont causées par l'humidité et le froid, et donc les fièvres.
Vient le 19e siècle, le développement de la chimie et des laboratoires. Un Français, Pierre-Joseph Leroux, isole le principe actif, la salicyline. Puis des scientifiques allemands et italiens développent l'acide salicylique, future aspirine. Les méthodes sont complexes et il faut encore trouver un moyen de se passer de l'écorce de saule.
On va mimer ce que fait la nature pour arriver à fabriquer une molécule comparable. Et ça a été l'œuvre de Kolb qui a trouvé une méthode permettant, en faisant réagir le phénol avec le gaz carbonique, d'obtenir de l'acide salicylique.
L'usage de l'acide salicylique se répand sous forme de sel pour traiter fièvre, douleur, rhumatisme, mais il provoque des brûlures d'estomac. En 1853, un autre Français, Charles-Frédéric Gerhardt, fabrique l'acide acétyl salicylique, moins corrosif. 30 ans plus tard, l'histoire s'accélère. Chez Bayer, un laboratoire allemand, le chimiste Félix Hoffmann reprend ses recherches et dépose un brevet, l'aspirine est née.
Les laboratoires Bayer vont faire les essais biologiques nécessaires et on va assister à la commercialisation d'une poudre d'abord.
Bayer développe sa production en France, aux États-Unis et partout les ventes explosent. Au cours du XXe siècle, le précieux médicament entre dans les pharmacies de tous les ménages et ce dans le monde entier.
Don't despair, a friend in need shows he is a friend indeed. You won't have to wait in vain.
Aujourd'hui, chaque année, 40 000 tonnes d'aspirine sont produites dans le monde.
Le paracétamol et l'aspirine. Ces antidouleurs sont aujourd'hui pointés du doigt en raison du risque de surdosage. Dans les années 70, ils étaient déjà facilement accessibles en pharmacie et parfois mal utilisés. Un constat qui inquiétait alors certains spécialistes.
L'aspirine est susceptible, si elle n'est pas prescrite dans de bonnes conditions et sous surveillance, de provoquer toute une série de troubles qui vont de l'hémorragie digestive à l'urticaire.
Dans les années 90, la consommation d'aspirine et de paracétamol fait toujours partie des réflexes, avec un risque, celui du surdosage. Ce médecin lançait l'alerte en 1998.
Si vous prenez plus de 3 grammes de paracétamol par jour, c'est votre foie qui peut tomber en panne.
Des mises en garde qui ne suffiront pas à changer les habitudes des Français. L'usage du paracétamol a même augmenté de 53% ces 10 dernières années. Un geste banal pour beaucoup.
Quand j'ai mal, je prends du paracétamol, mais modérément.
Pour moi, c'est pas dangereux d'en prendre.
En 2007, malgré les risques, l'automédication était même encouragée par les pouvoirs publics. Une idée pour réduire le déficit de la sécurité sociale.
Le rapport ministériel encourage ainsi la vente de l'aspirine et du paracétamol en libre-service.
L'initiative était alors dénoncée par certains professionnels de santé. Ce pharmacien alertait encore une fois sur la dangerosité potentielle de ces antidouleurs.
Si aujourd'hui, on doit augmenter la consommation des médicaments et augmenter le nombre de boîtes, on n'aura que des inconvénients de santé publique.
Autre alerte 8 ans plus tard, en 2015. En plus du risque hépatique, une étude britannique révélait d'autres effets indésirables liés à la surconsommation de paracétamol.
Le paracétamol augmenterait le risque de maladies cardiovasculaires, d'insuffisance rénale et de troubles gastro-intestinaux comme les ulcères, en plus de son action sur le foie et sur le système hormonal.
En 2018, la mort d'une jeune femme par intoxication au paracétamol relançait le débat. Un an plus tard, l'agence du médicament dévoilait une campagne de prévention. Aujourd'hui, le paracétamol et l'aspirine font toujours partie des substances actives les plus vendues en France.
Radio SBS en français, en ligne et sur votre smartphone.
L'eau se penche doucement dessus ma peau.
C'était Le Monde de Pauline Croze. Vous êtes toujours à l'écoute du programme en français sur les antennes de la radio SPS. On va passer à une petite pause et après cela, entretien avec Patricia Tomasi du gouvernement d'Australie-Méridionale. Et nous entretenons aujourd'hui d'une exposition exceptionnelle qui va se tenir conjointement entre Adélaïde et Rennes, une exposition d'art aborigène. À tout de suite.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
J'ai le plaisir de parler à Patricia Tomasi, responsable de la coopération avec la France au sein du gouvernement de l'Australie-Méridionale. Bienvenue sur les antennes de la Radio SBS, Patricia.
Merci beaucoup Bertrand, et enchanté d'être avec vous.
Nous nous rencontrons aujourd'hui pour parler d'un sujet particulier, l'exhibition d'art aborigène de l'Australie centrale, donc des Apia Islands, dans l'Australie méridionale, une exposition qui va s'ouvrir en France la semaine prochaine, et plus spécifiquement en Bretagne. Parlez-nous de cette exposition.
Bertrand, c'est une exposition absolument magnifique, unique, et ce dont nous sommes très fiers, qui a eu la chance En dépit de cette pandémie mondiale, nous avions la chance de réaliser, de concrétiser ce projet avec nos amis et collègues de Bretagne. L'exposition en elle-même contient 28 peintures, qui sont des peintures de taille très large, très impressionnantes. 32 photos noires et blancs d'artistes aborigènes, ce qui donnera aux visiteurs un lien direct entre la peinture et la personne ou entre le groupe d'artistes, mais aussi des vidéos et des lances. Et les lances représentent un projet culturel très particulier pour ces communautés aborigènes.
Et ces lances, donc, c'est non seulement des objets guerriers, c'est des armes. Dans le contexte de cette exposition, selon les artistes, ça symbolise aussi une bataille pour la préservation de leur culture, de leur langue et de leur patrimoine historique et culturel.
Eh bien, le projet dans les Landes Epiwai, dans les terres Epiwai, les terres aborigènes, a commencé au début des années 2010. Oui. Et c'est un projet qui a permis aux communautés, en effet, de non seulement partager un outil qui était un outil traditionnel de chasse et de guerre, mais aussi cet outil est devenu un symbole de transmission de la culture aborigène avec les autres. Ça permettait d'expliquer, de partager non seulement une culture traditionnelle, de la partager entre les générations d'artistes, mais aussi de la partager avec autrui. Donc c'est un vecteur de l'art aborigène. Et pour nos amis bretons, nous avons envoyé ces lances avec, bien sûr, une explication pour que ce récit, ce message, soit transmis aux visiteurs bretons du Musée des Beaux-Arts de Rennes.
Revenons-en à la Bretagne encore une fois. Pourquoi la Bretagne, spécifiquement la Bretagne?
Alors, l'Australie méridionale, l'État de l'Australie méridionale a des très bonnes relations avec la France, surtout des relations très proches avec la Bretagne. Nous avons signé il y a 3 ans un accord de partenariat, un partenariat qui se décline sur différents secteurs, notamment la défense, l'éducation, la science. Et très particulièrement, nous avons eu beaucoup de succès dans le domaine de l'art et de la culture. L'art et la culture, très souvent, sont des vecteurs qui transcendent les langues, qui permet de connecter des peuples qui, bien que de traditions complètement différentes, peuvent se comprendre. Et c'est pour ça que, avec cette exposition d'art aborigène, c'était notre intention de pouvoir exposer les visiteurs de ce musée à des traditions, à une culture complètement différente.
Quand on voit l'art aborigène ou la culture aborigène d'un point de vue d'un immigré ou même de l'étranger, ce qu'on voit souvent, ce sont des peintures avec des petits points, mais c'est une culture beaucoup plus vaste, ce sont des peintures. Il y a plusieurs genres et le genre du centre est un peu moins connu de l'étranger. Donc, à mon avis, opportun de pouvoir le présenter à une audience européenne. Et si je comprends bien, c'est la toute première fois aussi que cette exposition a lieu, non seulement en Bretagne, mais en Europe aussi.
C'est une occasion absolument fantastique de découvrir ces artistes, leurs traditions et également la signification de leurs peintures. L'exposition sera accompagnée d'un catalogue qui fait à peu près 300 pages, je crois, qui est traduit. Donc le catalogue est en 3 langues, en français, en anglais et en Pitanjara, qui est la langue des artistes, avec aussi un lexique de mots utilisés par les artistes, donc des mots qui sont très présents dans leur récit. Ce lexique est également traduit en breton. Chaque artiste a été enregistré et nous a raconté le but, l'origine ou quel est le récit qui est exprimé dans leur peinture. Donc ça permettra aux visiteurs de vraiment comprendre qu'est-ce que ça représente, quelles sont donc les couleurs, la structure de la peinture. Ils pourront peut-être, je pense, eux-mêmes se transporter au pays APY des artistes aborigènes.
Est-ce qu'il y a un artiste en particulier ou des artistes dont vous pourriez nous parler de l'importance de leurs œuvres ou qui sortent du lot?
Il y a un artiste qui fait partie qui est un collègue des artistes qui viennent à Rennes, Vincent Namejira, qui vient, donc qui fait partie de ces centres d'art collectifs dynamiques du APY Land. Vincent Namijira vient de remporter un prix national en Australie pour une de ses œuvres. Et je pense que sa renommée va, d'ailleurs nous avons transmis cette information à nos collègues de Rennes, la renommée de cet artiste, en fait, est partagée avec tous ses collègues, avec toutes les autres personnes de sa communauté à Rennes. Donc, les aborigènes, en général, travaillent de façon collective. Ils peuvent collaborer à plusieurs sur une peinture, mais ils partagent aussi beaucoup les succès. Donc, ce n'est pas seulement le succès d'une personne, c'est le succès d'une communauté. Donc, en ce moment, il y a vraiment un projecteur sur nos communautés du nord de l'Australie méridionale et ça fait très chaud au cœur.
Vincent fait aussi partie de la famille de Namijira, qui sont dont la descendance donc remonte à plusieurs générations, et un de ses aïeuls, si je puis dire, est oui. aussi connu pour les guerres, pour les droits des aborigènes, les guerres, le combat, la lutte pour les droits des aborigènes. Donc, pas seulement un artiste, mais aussi une figure historique dans le droit des aborigènes.
Oui, c'est une famille très importante pour notre communauté.
Pour revenir à l'organisation d'une exposition en 2020, une année particulière, une année pas comme les autres, du jamais vu sur le plan planétaire, une année de pandémie de Covid, comment est-ce que vous avez réussi à mettre au point une telle exposition sur deux continents, rassembler les artistes, les œuvres d'art, en période de pandémie, surtout que non seulement vous, là où vous êtes en Australie méridionale, les distances sont immenses, plusieurs fois la superficie de la France, et maintenant rassembler ces artistes et leurs œuvres. Et de l'autre côté du monde, de l'autre bout du monde, quels ont été les défis que vous avez rencontrés, comment est-ce que vous les avez relevés?
C'est assez complexe. Néanmoins, je vais commencer par le début. Nous avons une chance incroyable qui était l'année dernière de nous rendre à Rennes et de rencontrer nos collègues. Donc déjà, nous avons pu établir une relation humaine, partager notre enthousiasme, partager la beauté de ces peintures par des images. Et le musée des Beaux-Arts a été vraiment très intéressé dès le départ. Donc nous avons pu transcender ces défis initiaux qui étaient différence de langue, en effet, différence au point de vue différences d'heures entre France et Australie. Donc déjà pour la communication, c'était pas toujours évident. C'est des œuvres qui devaient voyager aussi vers la France. Donc il y avait beaucoup de paramètres assez extrêmes dès le départ. Et puis en effet, la pandémie qui est arrivée, les choses se sont vraiment compliquées. Au début, bien sûr, une délégation d'Australie devait venir avec les œuvres pour l'ouverture de l'expo la semaine prochaine. Bien sûr, ça ne sera pas le cas. Nous ne serons pas à Rennes et nous en sommes vraiment désolés. Mais ça avait aussi une portée sur le voyage des peintures elles-mêmes vers la France, qui devait être accompagné par des personnes. Donc, nous avons complètement transformer le projet pour l'adapter, et c'est là que mes collègues de la AXA et mes collègues de Bretagne ont été fantastiques, très souples dans leur approche du projet, et c'est pour ça que nous avons identifié des œuvres qui pouvaient voyager seules par freight. Nous avons eu bien sûr des coûts de voyage pour de freight qui ont été énorme par rapport à ce qui avait été budgété initialement. Quelque part, ça a été difficile, mais d'un autre côté, le résultat n'en est que plus beau et nous en sommes extrêmement fiers. Ce que j'aimerais vraiment partager, c'est notre passion pour l'art aborigène. Si vos auditeurs peuvent aller un jour visiter cette expo ou en parler à des amis, à leur famille, et inciter les gens à aller voir cette exposition, c'est une collaboration sur de deux continents, c'est une collaboration de deux cultures complètement différentes, c'est au niveau de point de vue des langues traditionnelles, c'est magnifique, c'est vraiment fantastique.
Et Et c'était Patricia Tomasi du gouvernement d'Australie méridionale. Elle nous parlait donc de cette exposition fantastique qui va se dérouler, dont l'ouverture est prévue ce 17 octobre à Rennes. Et la même exposition, l'équivalent, mais avec d'autres objets d'art évidemment, sera ouverte à Adélaïde le même jour. À présent, on va parler du drapeau aborigène. Eh bien, il y a peu plus d'un an, l'auteur de ce drapeau a introduit une action en justice pour récupérer ses droits d'auteur et pouvoir les exercer et même facturer pour l'usage de ce drapeau. Eh bien, ceci a créé une controverse parmi la communauté. Il y en a des membres de la communauté qui demandent à ce que ce drapeau, donc, que le gouvernement intervienne pour que le drapeau soit qu'on continue à utiliser ce drapeau comme on l'a toujours fait, et d'autres demandent tout simplement de pouvoir redessiner un nouveau drapeau qui serait plus représentatif pour les communautés, et d'autres sont montés au créneau et ont fait de nombreuses demandes pour qu'une solution soit trouvée. Bien, le gouvernement fédéral a dû intervenir cette semaine, une commission sénatoriale se penche sur ce sujet depuis le début de la semaine pour essayer de départager les parties. Pour en savoir plus, j'avais rencontré aussi une aborigène, Renée Thaï. Elle est en faveur, en fait, du retrait carrément de ce drapeau qu'on recommence à zéro. Écoutons-la, elle commence par expliquer sa position.
My view is quite different to Free the Flag campaign. I'm actually pushing for a Retire the Flag campaign at present. And I have discussions online around that. I initially felt that with Free the Flag campaign, there was another voice in the community that wasn't actually being heard. And that was the voice of Aboriginal people that didn't want to embrace the flag anymore. They felt that it no longer represented them because of what has actually happened in the community.
Yeah. So why would one feel not quite represented by this flag? It's been around for many, many years. This is a flag that everyone sees as the Aboriginal flag in Australia. We all know it as a black man walking on a red soil under a red sun. This is some unifying theme behind this flag.
What's actually happened with the flag in Harold Thomas signing an agreement with Wham Clothing has actually stirred up emotions in community with people. One of the directors with Wham Clothing is Ben Wooster, and Ben Wooster is the former director of Biripi Art. When he was a director at Biripi Art, before it went into liquidation, he was actually pulled into court by the ACCC. That was on misleading deceptive conduct. And what actually happened with that is that he ended up with a $2.3 million fine. Well, that business, Biripi Art, went into liquidation. Whilst that was actually happening, he went over and kickstarted another business. As far as I'm aware, he isn't able to pay the fine with Biripi Art, but he's gone on to start this new business, and there's been no consequences. ASIC hasn't even taken away his right to become a director, which is something that should have been approached. You know, there should have been questioning around whether his duty of care was lacking in the position, because obviously there was a lack of duty of care, because he wouldn't be fined. He wouldn't have been pulled into court with the ACCC. So there's all those issues around that.
Yeah.
And then he's gone on to start a new business with Celine Moore.
Yeah.
And immediately signs an exclusive license with Harold Thomas to be able to use the flag. And what's more, he's gone on to further extend that license from clothing to digital and print. Basically, if Aboriginal people who are in business want to be able to use the flag, they have to pay a fee. That's not okay. The fact that he has gone into business with a man who has exploited Aboriginal people, that's unethical. You know, they have every right in the world under legislation to be able to sign that agreement.
Yeah.
Fair enough.
Yeah.
But as it stands from a business perspective, it's not ethical. What is done to Aboriginal people, it's not okay.
But then the Aboriginal people have embraced and accepted that flag as a unifying symbol under which all the events are held, all demonstrations, and this is a flag that is carried with pride all over the country. Every event you go to, if it's Indigenous, you will see people wearing that flag. You will see bumper stickers. You'll see it everywhere. It's the symbol of the Aboriginal people.
Yes, that's true. It was thought to have been a design that unified people through the land rights movement. And yeah. Aboriginal people did. They embraced it. They elevated it. It became a part of Aboriginal people's identity.
Yeah.
And Aboriginal people were led to believe that it was the people's flag.
Yeah.
And then all these issues around copyright have come to a head. It's understandable that there is still a sense of pride in it,
yeah,
because it's been a part of so many triumphs and so many tragedies. It's been a part of history, but that too is the sad part of it, because in essence, it could also be said that it's one of the biggest mistakes,
yeah,
in Aboriginal history for our people,
yeah,
to have elevated that flag and given it the power it has. Because if we think about it, the people who actually initially elevated that flag, if they knew what the events that would transpire to this day, would yeah. they have given it the power that it has?
Yeah.
I'm not sure that they would if they knew that Aboriginal people would be denied the right to use it,
yeah.
that it would be used for a profit, that there would be any kind of a relationship, a business relationship, with an individual who has exploited Aboriginal people, and there's no protection
yeah.
from that.
So is it the case with other flags around Australia that flags can be protected under copyright?
With the Australian flag,
yeah,
it's free and available to the people.
Yeah.
There's a commons licensing. You don't have to pay a fee for it. There are some rules around how to use it, but if you're an Australian and you want to go ahead and you want to stick the flag on some of your clothing or products, you don't have to ask the government and pay a fee.
Yeah.
That's, you know, it's free. Even as far as I'm aware, with the Torres Strait Islander flag,
yeah,
there's no fees involved in there. They yeah. just have to request permission from
yeah.
the council
yeah.
that holds the copyright. Once they've gotten approval, then they just acknowledge the author. But it's free. You don't have to pay a fee, not personally, not commercially.
Yeah. Would a small fee be acceptable? Something symbolic, like $5 just going to the cause of an artist, or maybe helping the community, would that be acceptable? Or it's just totally out of principle, this should never, never, ever happen?
Out of principle, it shouldn't. It's a real slap in the face to yeah. Aboriginal Australia.
Yeah.
The fact that, you know, we could freely use the Australian flag. We could go ahead and stick another flag on, the Torres Strait Islander flag, and not have to pay a fee if we needed to use that for one reason or another for the community.
Yeah.
But we can't use the Aboriginal flag. To be honest, there are so many talented Aboriginal people in this country.
Yeah.
And there are plenty of people who would be willing to give to the Australian people.
Yeah.
They would surrender their copyrights.
Yeah.
And design a flag that Aboriginal people can be united under and share their pride.
Yeah.
In fact, there were other flags that existed around the time that Harold designed his. There were flags being made.
Yeah. Now, your view is that the flag should be retired. Now, if it's retired, how would it be retired? How would the process of retiring this flag happen? And by what would it be replaced? Because you need a unifying symbol. It's a very powerful symbol for the nation, for the people. It's a very, very powerful icon.
That's true. I feel that the voice of the community needs to be heard.
Yeah.
The voice of grassroots Australia. I feel that it would be appropriate to approach all the lands councils in Australia and ask them to be able to put it forward to members to run a competition and ask whether they want a competition to be able to have a flag that represents their own nation.
Yeah.
And then we could also have another flag that represents all First Nation people united.
Et c'était Renée Taille, une membre de la communauté aborigène, exprimant son point de vue sur la polémique concernant le drapeau aborigène. Et comme vous l'avez entendu, elle soutient tout simplement le changement de ce drapeau. Et c'était juste une petite partie de notre conversation. L'intégralité de cette conversation sera publiée peu après le programme sur notre site sps.com.au. Et ceci nous amène à la fin de cette édition. Je vous propose, pour nous amener jusqu'à la fin du programme, d'écouter Chasseur de papillons avec Louis Chédid.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.